et bienvenue dans Certains l'aiment au show, l'émission qui danse sous les films à la maison. Salut Thierry.
Salut Thomas.
Bon, aujourd'hui je sais que l'humeur n'est pas forcément au beau fixe. Thierry, je sais que tu es tout triste. On attendait la réouverture des cinémas avec impatience ce 15 décembre pour découvrir le dernier Quentin Dupieux, Mandibule.
Voilà, pour découvrir le dernier Quentin Dupieux, on est d'accord.
Voilà, ou pour les blockbusters comme le Wonder Woman par exemple.
Le dernier Quentin Dupieux, oui.
Voilà, ou bien pour rattraper les films
le Adieu les cons. Quentin Dupieux. Oui, rattraper Adieu les cons, oui, serait bien, oui.
Rattraper Adieu les cons ou Antoinette dans les Cévennes, par exemple. Il y avait tellement de belles choses à voir au cinéma. On s'est précipité vers les salles et puis jeudi, l'annonce est tombée. C'est l'annulation. L'annulation des films qui est tombée, hélas. Fermeture des salles reportée au 6 janvier. Voilà. Et bon, on sait tous qu'avec les fêtes de fin d'année, Noël, jour de l'an, tout ça, il y a très 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 peu de chances que ça s'ouvre début janvier. Donc on est parti pour rester un peu plus à la maison. Donc on va attendre un peu. Voilà. Donc on découvrira ça plus tard. Mais c'est pas grave parce qu'on va se rattraper. On va se rattraper. Et pour se rattraper, on a eu plusieurs solutions. Déjà, on a pensé à la drogue, effectivement.
Drogue ! C'était pas mal, hein.
C'était pas mal. Et c'était pas mal, mais ça suffit pas. Là, on est dans le mood, on redescend, là, ça y est, c'est le bad. Et donc, c'est tristesse un peu aujourd'hui. Donc, c'est un épisode consacré à la pluie, qui évoque souvent la mélancolie dans le cinéma.
Bah, enfin, ou les combats de boue dans Fort Boyard, hein.
Ou les combats de boue dans Fort Boyard, c'est vrai que c'est pas mal ça. On n'a pas programmé de combats de boue ce soir, tiens.
Bah, par contre, ce qui fait chier, c'est que dans Fort Boyard, tu vois, maintenant, enfin, parlons-en parce qu'ils font ça dans une salle close. Alors, je sais pas depuis combien de temps ils l'ont leur boue, mais c'est dégueulasse. Hein.
Ah, je sais pas, oui, il faudrait voir. Bien, avec nous, les capas de la critique. Vous savez, les capas, ces démons aquatiques, tout ça. Bon, bref.
Ah, ouais, j'ai cru que t'allais nous faire un truc de sororité américaine, je sais.
Mais oui, moi j'étais partie sur ça, j'ai pas compris.
Alpha, bêta, kappa. Alors, les kappa. Alors, pourquoi les kappa? Parce que c'est un démon. Alors, c'est un démon japonais. Alors, ça, c'est pas de bol parce qu'on va parler de films asiatiques ce soir, mais aucun film japonais. Très bien.
Le Japon est dans nos cœurs. Le Japon est dans nos cœurs.
Même s'il y a un japonais qui se balade ce soir dans les films. Alors, avec nous, un comité réduit. Hein, donc, avec nous, Thierry, deux amis, eux.
S.
Amis ES. Oui, ça va. Tu sais, on dit certains l'aiment à chaud. Déjà, on fait pas les liaisons. Alors, on peut oublier les S à la fin. C'est bon. Ouais, voilà.
On doit dire l'aime ta chaud.
C'est ça. Mais ça sonne pas pareil. Bref.
Non.
Pas vraiment, non. Vous l'avez entendu. En général, au cinéma, la pluie annonce soit un drame, soit un film d'horreur. Dans les deux cas, elle est comblée. C'est Oléonore. Salut. Ouais.
Salut.
Bon, la deuxième, suspense, elle sait qu'on va voir les.
Bah oui, j'attends.
Voilà, vous l'entendez, à chaque émission, c'est la mousson, tant elle pleure de rire. C'est Yassa, salut Yassa.
Salut.
Alors, comme vous le savez, dans Clac, donc généralement, on est un petit peu comme une série, en fait. C'est important de voir les autres épisodes pour se rappeler. Et comme dans tous les épisodes suivants, il y a toujours cette petite récompense pour le fan qui a suivi. Et vu qu'on a reçu des commentaires sur ça, moi, j'ai qu'un truc à dire et je veux juste savoir si ça marche. Yassa.
Oui.
Prout.
Ah mais non, mais...
Alors tu rigoles, mais c'était l'introduction alternative que j'avais écrite.
Non mais pas. Bah, voilà, prout, c'est drôle, je sais que vous...
On a rien dit, on ne juge pas.
Non mais je vais sampler le prout des nuls là, dans la mouche qui pète, des trucs comme ça. Et...
Ah oui, attends, prout Alain Chabat, c'est des prouts de luxe, hein, je veux dire.
Je sais pas si on a le budget. Ah ben ça, si on vend assez de mugs et de t-shirts, voilà, parce qu'on a toujours une boutique en ligne.
Comment réussir à caler qu'on a la boutique en ligne?
Ouais, c'est finement amené.
Voilà, donc si vous voulez qu'on mette le prout d'Alain Chabat, vous savez ce qu'il vous reste à faire, la boutique en ligne, le lien en description. Dépêchez-vous, c'est jusqu'à début janvier. Voilà, donc tant que, si on est en décembre, vous avez encore le temps. Voilà, c'est une édition limitée collector. Oh oh, voilà. Mais par contre, on n'a pas la boîte à prout, désolé, dans la boutique, je suis navré. Voilà, on est trop joyeux maintenant, il faut replomber l'ambiance maintenant.
Vu les films, bien. Ça va aller.
Vu les films, c'est bon, on va pas, ça va pas être la grosse joie, ça va pas être la grosse marade, quoique, je ne sais pas trop. avec nous ce soir, donc trois films autour de la pluie. Trois films asiatiques sélectionnés, je l'ai dit. On a pris, alors on a choisi donc un film chinois, Une pluie sans fin, et deux films coréens, The Strangers et Come Rain, Come Shine. C'est une spéciale asiatique, oui, parce qu'on n'allait pas vous infliger une pluie d'enfer ou Noé. Hein,
oh, mais une pluie d'enfer, attends, Christian Slater, toujours dans nos cœurs lui aussi. Il a disparu comme le Japon.
Et pas non plus Chantons sous la pluie. Alors, parce que un, déjà, c'était trop facile. Et deux, en fait, on le garde pour une émission spéciale qui a été reportée à cause de l'épidémie. Voilà.
Suspense.
Voilà. Donc, mais ça fait quand même un beau programme, malgré tout. Et on commence dès à présent avec le premier film, Une pluie sans fin.
他们都有着相似的外部条件，不应该不是我的。凶手也许在一个固定的地方物色作案目标。你没想过离开这儿吗？我想去香港，我们挣点钱就一起离开这儿吧。
Une pluie sans fin, Bao Xue Jiangzi, que j'ai sûrement très très mal prononcé, mais bon, ça...
Ah oui, avec l'accent, magnifique.
Ah, c'est... voilà. Mais c'est parce que c'est l'accent du sud de la Chine.
Ah bah oui.
Sûrement.
Voilà, ça signifie, semble-t-il, la tempête arrive, je crois. Bref. Polar chinois de 2018, de 2 heures. Premier long métrage de Dong Yue avec Zhuang Yiyong dans le rôle principal et Jiang Yiyang. Donc voilà, donc là visiblement, phonétiquement tout se ressemble, c'est une erreur. Et le nom suivant, c'est Du Yuan aussi. Qui, bon bref, phonétiquement c'est très compliqué.
T'es pas obligé, tu peux te limiter à deux noms, personne t'en voudra.
Tu auras essayé, Thomas.
Voilà,
essayé,
le cast chinois. Voilà. Alors l'accent du sud de la Chine, mais pourquoi? Parce que l'action se passe dans le sud. De la Chine, incroyable. En 1997, Yu Guowei, donc c'est un chef de la sécurité dans une usine, enquête sur une série de meurtres de jeunes femmes. Et alors que la police piétine, cette affaire va devenir une véritable obsession pour lui, voire même sa raison de vivre. Il va s'y jeter à corps perdu jusqu'à se perdre lui-même. Un polar en milieu industriel, dans une zone en friche. Et du coup, je me tourne vers le représentant du prolétariat, notre syndicaliste oui. local, Thierry. Thierry, c'est...
Ah oui, c'est moi, oui.
Donc tu as été avec Marwan, bon, qui n'a pas pu être là ce soir.
Ouais, hein, mais on s'est disputé. Ah, il n'était pas d'accord sur les merguez ou les chipots pour le prochain combat CGT, tu vois, donc forcément...
C'est ça. Et alors du coup... Donc c'est un film qui te tenait à cœur. Est-ce que tu l'avais vu avant de l'émission
non,
ou pas?
Non, pas du tout. C'est juste que ça a été l'occasion, en fait, dès l'instant qu'il y a ça à annoncer son thème. J'y ai pensé quasi, enfin de manière quasi immédiate. Celui-là et un autre que j'avais proposé, mais que j'avais pour le coup déjà vu. Donc c'était moins important. Et c'est juste que oui, c'est un film que j'avais raté à sa sortie et qui m'intriguait énormément. Et qu'on m'avait récemment conseillé, justement. Et je me suis dit, tiens, c'est vrai que ce sera l'occasion. Donc là... Bah, carrément quoi, film chinois qui, enfin, généralement des films que j'aime beaucoup, le thème avait l'air chouette, c'est un polar qui s'inspire de beaucoup de trucs que j'aime, j'étais là en mode ouais, donc je vais sûrement kiffer, et je regrette absolument pas de vous l'avoir proposé d'ailleurs.
Alors du coup, comment t'as trouvé? Parle-nous un peu plus, vas-y.
Oui, bien sûr, évidemment. Alors moi j'ai trouvé ça très très bien, alors après j'aimais la petite réserve du fait qu'il a quand même fallu que je me mette dedans. Je sais que certaines personnes ont reçu un de mes messages qui disait que je m'ennuyais un peu.
Et tu t'es fait un peu engueuler.
Oui. Oui. Mais oui, c'est vrai que, en fait, le film est quand même construit comme un gros puzzle, en fait. Et donc, du coup, au début, n'ayant pas tous les éléments, ayant un petit peu de mal à assembler toutes ces pièces-là, je vais pas dire que je me suis lassé. Parce que c'est pas le cas. Et c'est un film qui, de toute façon, tient quand même pas mal en haleine par son traitement. Donc, du coup, non, j'étais quand même accroché, mais... avec un certain ennui, une certaine lancinance, qui pour moi était quand même au final assez volontaire en fait. Je me disais qu'il veut, enfin, il essaye aussi de nous mettre dans le cadre de cette pseudo-enquête, qui n'est pas finalement le thème principal du film, où justement on a ce gars qui essaie de décortiquer tous ses meurtres, et ben ça prend du temps, c'est compliqué, il a pas tous les éléments, le mec c'est pas son métier non plus. Donc du coup je me disais oui, c'est aussi volontaire d'être dans cette espèce d'état de contemplation où tu comprends pas tout, où t'es un peu perdu. Et puis plus les pièces ont commencé à s'imbriquer, plus j'ai commencé vraiment à me fasciner par ça, en me demandant où est-ce qu'on m'emmenait. Et c'est pas tous les jours déjà qu'on se dit où est-ce qu'un film est en train de m'emmener. Là, c'était le cas. C'est très difficile d'en parler sans donner beaucoup d'éléments, sachant que tout le film se joue aussi sur ses ressorts et sur ses non-dits que l'on doit gratter, nous, au fur et à mesure. Donc, du coup, je vais peut-être pas forcément en dire plus. Mais en termes de sensations, c'était très, très fort. C'était très prenant. Et en fait, voilà, c'est à partir du moment où j'ai commencé à accrocher, je me suis remis en emphase sur tout ce que j'avais vu avant. Et je me disais, putain, non, c'est fantastique, en fait. Et je suis sorti de là absolument ravi.
Éléonore, t'as été ravie, toi aussi ?
Ah oui, oui. Alors, moi, pour le coup, je l'avais déjà vu. Je l'avais vu en avant-première au Balzac, donc juste avant qu'il sorte, suivi d'une rencontre avec une historienne spécialisée dans l'histoire chinoise. Et du coup, j'avais déjà, au premier visionnage, trouvé le film passionnant et très beau, en plus, il faut le dire, mais sans forcément l'ériger en chef-d'œuvre plus que ça. Et là, au second visionnage, comme j'avais déjà du coup toutes les clés un petit peu de l'histoire et que j'avais pas forcément à m'intéresser à la narration, mais à m'intéresser à d'autres choses, je l'ai trouvé vraiment exceptionnel. Alors déjà, on va commencer par ce qui est vraiment le plus frappant, c'est la photographie. C'est dingue, c'est une folie. En plus, pour un premier film, je trouve ça incroyable. Le ou la chef opérateur, enfin le chef opérateur, chef opératrice, un homme ou une femme, c'est un génie. Il faut savoir qu'il pleut réellement tout le long du film, d'où le titre, une pluie sans fin. Et du coup, il doit jouer avec des nuances de gris pendant tout le long, qui n'est pas quelque chose de facile à faire. Et c'est une vraie réussite. Que ce soit en travaillant sur du coup la pluie qui fait briller des impairs gris, que ce soit le travail sur la boue qui est du coup pas exactement de la même texture que le ciel qui est gris, c'est sublime. Outre cela, ce qui est vraiment passionnant, c'est que sur la couleur et sur l'image, c'est que tous les moments qui se passent de nuit sont plus lumineux que les moments qui sont en journée, qui sont eux très très gris, et je trouve ça fou, parce qu'en fait tous les moments nocturnes sont associés à un autre personnage. Donc on a, comme Thierry et Thomas ont dit, il y a ce personnage qui est paumé dans sa vie, qui se sert un petit peu de cette enquête où il a un petit peu rien à faire pour essayer de trouver un échappatoire à une vie sans fin. Il est tout seul, il a plein de copains, mais tu sens que c'est pas une vraie famille. Enfin, il est assez solitaire finalement, cet homme. Et un petit peu son havre de paix, c'est cette femme, une amie d'enfance, je pense, ou en tout cas une amie de jeunesse, hein, qui l'aide le long du film et qui lui sert aussi dans l'enquête, mais je ne vais pas forcément en dire plus que ça. Et toutes les scènes qui sont liées à cette femme ont un petit peu de couleur. Donc, ce n'est pas forcément des couleurs qui sont très vives, c'est en général très désaturé, c'est très pastel. Et je trouve ça, du coup, vraiment sublime à regarder. Outre cela, c'est aussi un film qui est historiquement très ancré, donc ça se passe en 1997, donc pile en plein dans la crise financière asiatique, et ça se ressent dans le film. Il y a des scènes qui vraiment brisent le cœur, donc je peux en citer une qui va pas trop spoiler, où le personnage principal se retrouve sans travail, avec donc ces images qu'on a eues aussi d'ailleurs en Europe, de tous ces hommes qui s'attroupent à côté d'une grille de l'aciérie, donc en plus l'acier qui est gris, donc on revient encore à ce travail du gris mais différent, et avec juste, je sais pas, un millième des... plus quand même, mais on va dire 1% des gens qui doivent normalement travailler, qui se retrouvent du jour au lendemain sans travail, quoi. Donc c'est des scènes choc comme ça, qui sont des...
Oui, on pense à la scène de l'ouverture de l'usine, où ils sont, bon alors toi tu bosses, et les autres, on vous enverra vos affaires, quoi. C'est ça,
elle est terrible, je trouve, et elle est filmée de manière, encore une fois, tout est gris... on a juste quelques gros plans sur le visage du personnage principal et son air dépité, parce qu'en plus, lui est persuadé qu'il est indispensable à cette usine, donc c'est pire encore. Alors on sent que du coup, tu as toute la société qui joue avec ça, et en plus, ce qui est vraiment très malin, c'est que le film commence par un flashback. Donc en fait, on est en 2008, au tout début du film, et on comprend qu'il sort de prison, sans forcément dire plus. On n'est pas sûr de son état mental. Et il y a plein de petits détails dans le film et de mini-dialogues, de petites phrases qui te font comprendre que tu ne sais pas exactement si... Enfin, tu te demandes s'il n'est pas un petit peu fou, finalement, cet homme. Et c'est très finement amené, et c'est vraiment un film d'une finesse et d'une beauté incroyable. Mais qui vraiment, par contre, peut briser le cœur parfois sur certaines...
C'est vrai qu'il y a une bizarrerie, parce que autant lui et son assistant se congratulent, ouais, je suis vraiment trop fort, personne ne me résiste, tout ça, et dès qu'il arrive sur la scène du crime, c'est ouais, non, mais on t'a fait venir parce qu'on avait personne d'autre, mais en fait, bon, tu sers pas à grand chose, quoi, t'es là, mais c'est à contre-cœur.
Oui, c'est ça, bah, en fait, c'est les policiers qui sont dit, ah oui, voilà.
Ouais, il y a une dissonance, on sent déjà dès le début du film qu'il y a un truc qui cloche. Il y a ça, inspectrice, il y a ça.
Oui, chef.
Au rapport.
À vrai dire, je vais un petit peu rejoindre ce dont parlait Léonore, et c'est surtout la photographie et la couleur qui m'a fascinée dans ce film. Le seul petit bémol que j'aurais à lui reprocher, c'est un petit peu cette lenteur au début, où justement j'avais aussi un petit peu de mal à me plonger, mais c'est pas vraiment dérangeant en soi, parce qu'il y a quand même une trame narrative qui fait que voilà, on a quand même envie de voir où ça va mener. Je pense que ce film aurait très bien porté le nom de 50 Shades of Grey. Mais vraiment.
Je dis.
Mais vraiment,
ça,
parce que
ça aurait été bien mieux que ce soit celui-là la référence, si c'est appelé comme
ouais,
ça.
Ouais,
hein. Si seulement.
Ouais. C'est très varié en fait en termes de colorimétrie, mais toujours en étant, comme disait Léo, désaturé, fade. Il y a quand même cette atmosphère brumeuse qui est constante et qui, à un moment donné, au fur et à mesure du déroulement de l'histoire, devient carrément éthérée, quoi. On a aussi la pluie qui participe énormément à planter le décor, et je trouve que dans cette histoire, c'est pas juste un élément de décor ou un élément de la nature, mais c'est... J'ai l'impression que c'est vraiment un personnage un petit peu à part entière, où quand au lieu de pleuvoir, quand il pleut, ça nourrit la terre, ou ça permet au personnage de prendre un bol d'air par rapport à l'oppression dans laquelle ils sont plongés. J'ai l'impression qu'elle participe à obscurcir le jugement des personnages. Il y a certains moments où j'avais juste envie d'essuyer l'écran pour y voir plus clair, quoi, parce que je me disais, mais écarte, arrête de pleuvoir, parce que c'est perturbant, ça vient, c'est un peu en fond comme ça, c'est un moustique qui tourne autour de l'oreille comme ça et qui n'arrête pas sans cesse, qui vient taper sur les nerfs on peut plus un petit peu réfléchir clairement. Et
d'ailleurs, t'as installé des essuie-glaces sur l'écran, je crois.
Ouais, ils marchent super bien. Et c'est pour ça que je pense que plus que le film que j'ai proposé, celui-là est celui qui se rapproche le plus de la thématique d'aujourd'hui. Il est vraiment, c'est vraiment un personnage à part entière de la narration. Et après, en dehors de ça, je dois avouer que je me suis vraiment prise d'empathie pour les personnages, notamment Hugo Hay et Yanzi aussi, la femme, qui sont à la fois touchants et à la fois, on voit quand même que c'est, il y a un ras-le-bol un petit peu de vivre dans ces conditions. Et pour Hugo Hay, ces histoires de meurtre, c'est un petit peu le dernier fil qui le raccroche en fait à quelque chose, je pense, qu'il pourrait lui permettre de se sentir vivant à nouveau, finalement, même si ça le mène à agir d'une certaine manière au fur et à mesure. Mais je pense que voilà, c'est il y a une certaine humanité dans cette détresse qui m'a profondément touchée dans ce film.
Mmh. Ouais, humanité, tendresse. Ouais, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses. Moi, je l'avais déjà vu aussi, ce film. Alors, je savais que je l'avais vu, mais en fait, ça m'a fait... Enfin, il a fallu que je le revoie quand même pour me rafraîchir l'esprit, parce que je le confondais dans ma tête avec un autre film chinois, Black Coal, qui est aussi un polar en milieu industriel. C'était un entrepôt de charbon, en fait. Il y a une mine de charbon, puis ils répartissent le charbon. Voilà. Et donc, il y a l'enquêteur qui enquête dans ce milieu-là. Et ces deux films avaient tendance à se mélanger dans ma tête. Donc, quand on m'a dit Une pluie sans fin, en fait, il a fallu un petit moment pour accrocher les wagons. Donc, en le revoyant, ben, ça allait mieux. Les trucs revenaient petit à petit. Et effectivement, on a cet élément industriel, le portrait social, finalement, de l'insécurité sociale et le désœuvrement. On parle de la pluie, mais on peut voir aussi, il y a beaucoup d'effets de foule aussi. On a parlé de la foule devant le portail, la foule dans la rue, quand il pleut, il y a énormément de parapluies ou autre. Et souvent, le personnage est noyé dans cette foule. On peut, alors peut-être que comme il est noyé dans la pluie, on peut y voir cette image-là. Il y a pas mal d'effets comme ça qui sont intéressants. C'est très joli, c'est très beau. Alors après, c'est vrai que on perd presque l'intérêt pour l'enquête, tant en fait, c'est plus le portrait social qui nous intéresse ici.
Ah ben carrément. Et tu m'as appelé tout à l'heure pour rigoler le syndicaliste de l'équipe, mais c'est vrai que quand on a un minimum d'engagement sur ce genre de combats sociaux, même quand on en a pas, je pense qu'on est tous touchés. La Chine, ce qu'elle se prend dans la gueule dans ce film, c'est assez impressionnant. Je sais pas du tout comment le film a été reçu là-bas, ni s'il a pas été potentiellement un peu censuré, parce que ce serait limite logique vu comment ils sont dans la répression constamment sur tout ce qui peut contrevenir à leur idée de régime parfait. Mais Et c'est très très sale, parce qu'on a quand même un mec qui sombre à moitié dans la folie, juste parce que c'est une quête de perfection, parce que la société te dit clairement que si tu n'es pas, si tu te fous pas à genoux pour ton travail, que t'es pas prêt à crever pour, tu n'es rien, quoi. Et c'est constamment dans le fond du film, quoi, ça. Ce truc qui est l'espèce de le tirail totalement, et je trouve ça très fort, quoi.
Alors, il a été nommé dans beaucoup de festivals asiatiques et chinois.
Bon, bah alors que non, bah c'est cool, preuve qu'ils ont peut-être un peu de recul là-dessus, mais j'imagine qu'au gouvernement, ça aurait pu potentiellement gueuler, quoi.
Alors après, ça parle de 97, c'était une période particulière, voilà. Et puis en plus, là, il y a un contexte particulier, il y avait une crise économique, il y a aussi la rétrocession de Hong Kong aussi. Il y a des personnages qui parlent, qui disent qu'ils vont quitter la région pour partir à Hong Kong, ce genre de choses. Enfin bon, il y a ces éléments-là. Peut-être que ça joue.
Mais justement, par rapport à ce que disait Thierry, par rapport au travail et à l'importance qu'il lui confère là-bas, je trouve que quand même aussi, il y a dans la manière de parler, alors je sais évidemment que voilà, ça fait partie des manières linguistiques des Chinois de parler de cette manière, mais je trouve que ici, particulièrement, quand ils se parlent entre eux, il y a quand même une certaine virulence dans le ton et la tonalité qu'ils emploient quand ils parlent aux ouvriers, qui, moi, m'a fait un petit peu froid dans le dos la première fois que je les ai entendus, parce que c'est vraiment des enfants qu'on gronde, quoi. On leur dit, ben voilà, même si c'est pour dire des phrases toutes banales, hein, mais il y a quand même ce regard un petit peu porté de haut où on leur dit, ben voilà, vous n'êtes rien, vous ne servez pas à grand-chose, etc. Et... je sais pas, une manière de les traiter qui est quand même assez...
Alors, ça m'a pas choqué dans le sens où ça m'a pas surpris. C'est-à-dire que c'est un truc qu'on retrouve. J'ai l'impression, je suis pas sinologue, donc je sais ça. Mais souvent, culturellement et souvent dans les films, ce qu'on voit, c'est que le collectif prime sur l'individu. Et en Chine, en général, c'est pas détendre. Quand on voit des films, c'est souvent l'Empire chinois. Voilà. C'est, donc c'est presque pas étonnant. Et donc, ouais, on a souvent une autorité qui dirige le collectif et le collectif passe avant l'individu. Et c'est vrai qu'en Chine, c'est souvent musclé. Et puis, alors, c'est pas montré, il n'y a pas de répression telle quelle, mais tu sens que les mecs, quand ils sont à la porte, ils ont envie de gueuler, mais ils sont moyen chauds, quoi.
Oui, non, mais voilà, c'est un tout, en fait, qui c'est une ambiance, c'est aussi une manière de parler, une manière de s'adresser aux autres qui fait émerger ce sentiment-là chez moi, quoi.
Oui, c'est ça. Je pense que le film aurait eu un problème s'il y avait eu des grèves ou une révolte ou un truc comme ça. Là, peut-être qu'il y aurait eu de la censure. Peut-être que ça a été censuré, d'ailleurs, peut-être. Parce qu'on voit que la police intervient un peu de temps en temps, mais pas de gros mouvements sous ciel. Donc, voilà.
Après, voilà. Je ne sais pas s'il a eu une si grosse sortie que ça au cinéma. C'est vrai qu'en général, le cinéma, il me semble, est assez cher en Chine. Et du coup, il y a principalement des blockbusters qui vont voir. Donc, bon, il s'est peut-être adressé déjà à une... un public déjà conquis, même en Chine, on va dire.
Alors, selon IMDb, il aurait fait 4 millions de dollars de recettes en Chine. Il me paraît pas mal, quand même.
Ouais. Ouais. Ça me paraît beaucoup.
Ça paraît beaucoup, ouais, voilà.
Je me rends pas compte, donc je vais pas... J'ai pensé à tirer des plans sur la comète, je ne sais pas.
On est loin des blockbusters américains, quoique même des blockbusters chinois aussi d'ailleurs, mais ça me paraît un chiffre pas dégueu. Même si le cinéma est cher, ça doit être dans les grandes villes, ça a peut-être marché. Je ne sais pas. Bien. Donc une pluie sans fin. Hélas, on doit mettre un terme à cette pluie-là pour passer à une autre.
Jane, 낚시할 적에 뭐 어떤 게 걸려 나올지 알고 있나? 그놈은 낚시를 하는 거요. 뭐가 딸려 나올지는 몰랐겠지, 지도.
Donc, Un Siffleur, un film sur Kuro Savoy. Non, pas du tout. Pas du tout un western, absolument pas. The Strangers, ou Goksung, ou bien The Wailing, en version internationale. Allez savoir les traductions, voilà. C'est des trucs, c'est la magie de l'international. Film 2016 de 2h36 de Na Hong-Chin. C'est son troisième long. Il avait réalisé notamment The Chaser. Voilà, en 2005. Film avec Dong Bong-nak, qui va jouer le personnage principal, Jong-gu, un enquêteur un peu maladroit qui, dans un petit village de montagne, va essayer d'enquêter sur une série de meurtres assez sauvages et inexpliqués. Et il semblerait qu'une épidémie se développe parmi les habitants qui sont pris d'une soudaine folie meurtrière. Et au fur et à mesure qu'on avance, il y a du surnaturel qui va venir par-dessus. Et puis, est-ce qu'il faut en dire plus? Je ne crois pas. Voilà, rumeurs, superstitions et un japonais, un étranger, bien bizarre. Voilà beaucoup d'éléments sur ce film. Au départ, au début du film, quand j'ai commencé le résumé, j'avais noté entre la maladresse du personnage et ces drôles d'habitants qui sont pris de folie, qui sont infectés au début du film, on l'apprend assez vite. Moi, j'avais noté Pino simple flic contre les zombies, pour vous donner un état d'esprit.
Ce pauvre Coluche qui aurait joué là-dedans, ça aurait été marrant.
Voilà. Bon, et puis plus ça va, plus on s'en éloigne quand même un peu. Enfin, ah du bon Pino simple flic. Voilà.
Tu rajoutes un peu l'exorciste en plein milieu, quoi.
Oui, c'est un peu ça, ouais.
Désinfecté de l'ésotérique, des rumeurs, des légendes, je me tourne vers la prêtresse du film de genre, Éléonore.
Oh là là. Mais comment je vais parler de ce film, mon Dieu. je vais quand même dire que je l'ai trouvé génial. Mais alors, comment est-ce qu'on appréhende un truc pareil?
Bonne chance.
Voilà, c'est ça. Enfin, bonne chance à tous. On va tous y passer. Hein.
Oui, ben oui. On peut en prendre un petit bout chacun. Hein.
C'est ça. Je commence à voir beaucoup de films coréens avec vous et c'est super. Hein. Je peux dire qu'il y a déjà très clairement un changement de genre radical. Parce qu'il commence quand même par une espèce de comédie policière avec des personnages pas bien malins et un peu rigolos, on va dire, mais fort sympathiques, mais quand même un peu horrifiques parce qu'il y a des images glauquette, on va dire, au début, sans que ce soit non plus too much, et ça finit par un truc sur une réflexion sur la religion, la spiritualité, la relation avec le Japon. Je sais même pas comment on peut qualifier ce film, mais il est passionnant, il nous emmène quelque part il nous amène finalement complètement ailleurs. Ça finit par une scène qui est simplement glaçante avec un acteur absolument super qui est effrayant au possible. On ne sait pas très bien ce qu'il est, s'il y a des histoires de chamanisme, de démons, de diables, de possession. Ce film est fou. Film est fou.
L'acteur, tu parles de l'étranger, c'est ça, Jun Kunimura?
Oui, du japonais, du coup. Jun Kunimura, ouais. Exactement. Ouais. Exactement, qui est époustouflant, tout simplement.
Ouais, c'est vrai qu'il est très marquant dans le film. D'ailleurs, c'est un film, alors j'ai pas précisé, le film a été présenté hors compétition à Cannes en 2016 également.
Oh, ils ont tellement dû hurler.
Je sais pas ce qu'ils ont compris, les mecs, ce qui leur est arrivé. J'aurais bien voulu voir les têtes sur la croisette.
Mais oui. Oh, si, ça a dû plaire quand même, je me souviens plus, mais...
Il y a tellement de choses à dire, ouais, parce que ouais, ça commence Pino simple flic, ça finit sur l'exorciste, hein, quand même, un peu, pour... En gros, sur le trait, il y a ça, t'as survécu face au film, t'as tenu le coup.
Oui, ça va. Bah oui, parce que ça commence gentiment, donc je m'attends.
J'imagine bien, il y a ça, engueuler le film en plein milieu. Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu fais ça? C'était bien.
Bah, je dois dire que c'est quand même, enfin, il y a pas de jump scare, de trucs comme ça, de gros body horror tout gluant, où il y a juste du sang, voilà, ça explose et tout, donc ça va, c'est le genre de choses que j'arrive à supporter, donc ça m'a pas dérangé plus que ça, à vrai dire, sauf vers la fin où ça commence à devenir assez graphique, mais bon, pas plus que ça, et c'est un truc qui mélange un petit peu le légendarium, la mythologie à la fois coréenne et à la fois japonaise, et à la fois qui va puiser aussi dans l'inconscient christique, occidental, biblique, etc. C'est un petit peu un gloubi-boulga, mais qui est assez bien amené parce que on reste focalisé quand même sur le personnage du policier et on découvre les choses au fur et à mesure comme lui. Ça évite de nous perdre en tant que spectateur. Et d'un autre côté, il y a des éléments qui sont balancés. Et j'avoue qu'à la fin, j'avais un petit peu de mal à... Je me demandais si vraiment il y a eu une résolution à ce film, si vraiment il y a un fin mot de l'histoire. Ce qui m'a le plus plu dans ce film, vraiment, c'est que la partie un petit peu démoniaque, un petit peu horreur, elle est pas si terrible en tant que telle, parce que dans tout ce que vivent en fait les personnages, ça avance au fur et à mesure. Donc, alors je sais pas pour les personnes qui ont l'habitude de voir des films d'horreur si c'est une bonne chose ou pas, mais c'est à dire que moi je sentais quand même le drame arriver, donc ça m'a permis de me mettre dans l'esprit de me préparer.
Tu veux dire que c'était progressif, tu vois, ça monte, c'est pas de l'horreur d'un coup, tu vois, c'est
oui, oui, c'est ça.
C'est l'image de la grenouille qu'on met dans l'eau froide et qu'on fait chauffer petit à petit, c'est ça?
C'est ça, tu sais que ça va venir, à un moment donné, ça va mal se finir. Après, le fait d'avoir fait de suspecter que ce soit un japonais, voilà, qui arrive dans ce village coréen n'est pas anodin en tant que tel quand on connaît l'histoire commune de la Corée et du Japon. Après, je sais pas si le réalisateur avait caché un message derrière ça.
Oh, quand même.
Un seul message, il a caché, tu crois?
Le film parle quand même totalement de racisme pendant une heure et demie, hein, donc.
Ouais.
Ouais. C'est pas faux. Et je trouve que, alors pour le coup, parce que quand même il y a une histoire de possession, etc. Et je trouve que la petite fille joue extrêmement bien. Alors j'ai pas énormément de références en matière de possession.
Non, elle est excellente, ouais.
Mais je ne voulais plus l'entendre crier parce que c'était absolument terrible. Et je trouve aussi que les autres acteurs jouent bien, justement, campent bien leur rôle. Et après, tout ce que je pourrais vraiment reprocher à ce film, c'est qu'il est à l'image un petit peu de la menace que les personnages ont en face d'eux, c'est que ça reste un petit peu flou et ça reste un petit peu incompréhensible, mais ce qui n'enlève rien à la qualité et au charme du film.
Ah bah, moi, tu vois, je trouve qu'au contraire, c'est ça. Enfin, je dis juste un petit truc, après je laisse. C'est sa qualité, le fait qu'en fait, on ne sache pas exactement quelle est la fin et que ce soit vraiment irrationnel et que chacun puisse y mettre l'interprétation qu'il veut sur ce dénouement qui n'en est pas vraiment un. Donc je trouve que c'est vraiment sa plus grande qualité, et ce qui fait que c'est très compliqué d'en parler, je trouve.
Ouais. Ou alors on peut trouver que c'est une facilité scénaristique, ça dépend les interprétations.
Ah, je pense pas que ce soit, je l'ai pas perçu comme ça en tout cas. Le film est suffisamment travaillé,
c'est
pour
ça, oui. Il y a tellement de choses dans ce truc qu'on se demande s'il a pas voulu bourrer. À un moment, le film pourrait s'arrêter. Et le film pourrait s'arrêter à un moment. Et il se tiendrait, en fait. Il y a une fin possible. Et en fait, il repart encore sur autre chose. Et il y a des moments qu'il aime bien faire durer parce que la scène lui plaît. Je pense notamment à un combat de zombie face à un zombie. Les mecs sont en groupe sur un zombie et ça dure 2 heures. Enfin, ça dure 2 heures. C'est un sacré combat, on va dire. Et donc, ouais, c'est ça. Il filme des trucs, ça lui plaît, il en met. Et il y a tellement de références, il y a tellement de trucs. Que à la fin, quand on arrive justement sur cette fin, sur cette conclusion qui est très très ouverte, hein, pour le coup, on se demande si justement c'était pas pour se faire plaisir, pour mélanger plein de choses, ou s'il avait vraiment cette fin là en tête qui est particulière. C'est la question qu'on peut se poser. Peut-être qu'il avait prévu ça ou peut-être pas. J'ai pas la réponse.
Je trouve pas la fin si ouverte que ça, moi, pour le coup.
Ouais.
Ouais, mais après, avant de revenir justement sur ça, justement, enfin sur le fait que je le trouve pas si ouvert que ça, mais pas fermé non plus, hein, n'exagérons pas. Je vais donner vite fait mon avis sur le film avant justement de partir là-dessus. Moi, le film, je l'avais déjà vu, c'est la troisième fois que je le vois.
Ah ouais?
Ouais. Dans Ong Jin, je suis très très fan, hein. Moi, depuis The Chaser, tu vois, ça date un petit peu, et déjà, j'avais été assez subjugué. The Murderer, je fais partie du peu de personnes qui l'ont vu parce qu'il a pas été non plus extrêmement, enfin, beaucoup de gens l'ont vu depuis, mais en tout cas, en salle, il était pas non plus diffusé, distribué comme il fallait en France, mais, on a eu la chance de le voir. Donc Hong Jin, c'est très bien. J'aime beaucoup quand Eleonore, tu dis au début que c'est très difficile, qu'on sait pas du tout comment appréhender ça. Bah, j'ai envie de te dire, même quand on connaît très bien Hong Jin, on peut pas savoir comment appréhender ça. quand tu mates The Chaser qui te parle, voilà, d'un espèce de proxénète repenti en flic qui va se repentir au fur et à mesure parce qu'il se rend compte que, ah là là, avoir mis des filles sur le trottoir et que maintenant elles sont à la merci d'un serial killer, je suis peut-être quelqu'un de pas très bien, je vais peut-être essayer de les aider. Mais voilà, des films qui sont sociaux, qui sont aussi des gros polars ultra intenses. The Murderer, c'est pareil, sur un gars qui est parti à l'étranger, qui doit revenir en Corée pour essayer de choper des papiers, et la seule chose qu'on lui propose, c'est de buter des gens, c'est de buter quelqu'un comme ça en Corée, et il s'avère que quelqu'un le bute avant lui et qu'il se retrouve dans un espèce de filon de mafia complètement starbé. Mais c'est des films qui sont ultra réalistes, il y a aucun problème avec ça. Donc tout à coup, quand le mec il part là-dedans, tu peux pas du tout t'attendre à ça de sa part à lui, en tout cas, même s'il a un côté fou, il y a un côté petit malin aussi qui fait que dans The Chaser, on l'a qualifié de réalisateur démoniaque. Peut-être qu'il s'est vengé.
Mais, ça se sent.
Hein. Mais ouais, ouais, c'est un truc de fou, The Strangers, parce que la première fois, je l'ai adoré, je suis sorti de la salle en mode c'est quoi ce truc de fou. Je l'ai revu parce que j'ai écrit une rétrospective dans Engine, et eh ben je l'ai pas trop aimé, du coup j'ai écrit en mode bon, un peu réticent. Du coup là, à le revoir, j'étais là, bah pourquoi pas, et j'ai adoré. Et donc j'ai l'impression que si je le revois, je vais pas l'aimer. Mais c'est ultra clivant, et c'est vrai que le film passe son temps à nous emmener partout avec une énorme cohérence et à la fois aucune, et ça part dans tous les sens. Bon, alors après c'est vrai que ça coche aussi pas mal les ressorts du film coréen qui justement se doit de changer de style en plein milieu, sinon t'as l'impression qu'il passe pas son diplôme. Et sauf que là ça fonctionne super bien, quoi. Et après en fait le seul truc qui fait que cette fin là, que la manière dont ça s'amorce et que la manière dont ça se tourne, c'est plus ou moins dit, c'est juste que le film s'entame par un verset en fait de l'évangile de Saint-Luc. Alors je sais plus exactement ce que le verset dit, mais le verset parle du démon et il dit juste que il ne sert à rien de me regarder ou quoi que ce soit, on peut déjà me toucher car je suis parmi vous. C'est un truc comme ça. Et donc en fait pour moi
voilà mes pieds, voilà mes mains, un truc comme ça, non?
Ouais, c'est un truc comme ça, oui, c'est ça.
C'est bien
voyez
moi.
Mes mains, ouais. Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi, touchez-moi et voyez, un fantôme n'a ni chair ni os, contrairement à moi, comme vous pouvez le constater.
Bah, merci,
voilà,
à ça.
Parfait.
Mais du coup, voilà, on a un film, en fait, qui, bon, même si là, en l'occurrence, on va, c'était un petit peu le papa Jésus, hein, qui disait ça, mais là, ça peut être totalement associé à cette espèce de figure démoniaque qui va hanter le film, qu'on va fantasmer au fur et à mesure, qu'on va aussi soupçonner, puisqu'il y a le côté, au tout début, chaque fois qu'on voit les apparitions démoniaques de cette espèce d'entité fantomatique qui les suit et qui est représentée par ce japonais, qui est intervenu dans le village, c'est par le biais de leurs fantasmes et de leurs rêves. Les gars, on leur raconte que c'est dangereux, qu'ils vont morfler, qu'ils peuvent les attaquer. Donc, chaque fois, ils se réveillent. Donc, on se dit, ok, d'accord, c'est juste qu'ils l'imaginent comme tel. Et c'est pour ça que le film passe sur du racisme, part sur le côté, c'est un japonais, il est forcément dangereux, il faut l'arrêter. Finalement, on nous dit qu'il y a autre chose, on nous parle d'autre chose, après on nous parle de possession, bah, en effet, ce dont on parlait tout à l'heure. On nous parle du fait que finalement, c'était peut-être celui qui était venu pour aider les gens, il est venu pour une autre raison. Bon. Il y a énormément d'interprétations à faire sur ce film. Je pense que les gens devraient le regarder avant d'essayer de s'en faire une. Moi, je suis allé en regarder certaines qui confortaient certaines idées que je m'étais faites, qui en ont aussi détruit d'autres, donc à voir. Mais il y a toujours voilà ce verset qui nous dit clairement, en fait, il y a une entité parmi vous, et vous allez la voir, en fait. Donc c'est pour ça que je trouve que la fin n'est pas si ouverte que ça, parce qu'il nous dit clairement, bah, en fait, non, vous avez vu, mais comme les personnages, vous avez cherché à comprendre et vous avez cherché à penser que c'était constamment autre chose, en fait. Et j'ai l'impression que c'est ça, c'est qu'en fait les personnages passent de mauvaise piste en mauvaise piste sans jamais se fier au surnaturel qui leur dit clairement bah il y a un démon parmi vous, quoi. Voilà, je sais bon, pas si c'est clair, hein, c'est
on
très
vient de spoiler le film largement.
Ouais.
C'est vrai. Mais voilà, c'est pour ça c'est très confus, hein, ce que je dis, mais le film en même temps nous met dans un état de confusion assez extrême et donne envie de réfléchir. Et moi c'est surtout ce que j'aime dans ce film, c'est que ça sort de là, on a envie de se poser, d'en parler, quoi.
Si je peux rebondir ce que tu as dit,
vas-y, vas-y.
Je te laisse parler ensuite après, c'est que la forme démoniaque n'est vue, un, soit en rêve, effectivement, comme tu l'as dit, par certains personnages, soit en vrai, par le seul personnage qui est chrétien. Est-ce qu'il n'y a pas aussi quelque chose à interpréter de ce côté-là? Est-ce que du coup, ce personnage est réellement démon ou est-ce que c'est simplement la projection d'une vision chrétienne?
Et on peut y voir aussi la projection de sa propre peur, justement, qui refuse d'identifier un élément malsain que par autre chose que la bête, c'est vrai.
Il y a beaucoup de pistes, beaucoup de choses. Ouais. Moi, au début, quand j'ai vu le village fou, les villageois qui devenaient fous à cause d'un champignon, d'un truc comme ça, ça m'a fait penser à un fait divers, l'affaire du pain maudit de Pont-Saint-Esprit. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler.
Ça me dit rien.
En droit pénal, on en parle un peu. Je peux d'ailleurs penser à Ellie qui passe ses examens de droit. Voilà.
Oui.
Il y a ma petite sœur aussi qui passe ses examens de droit aussi. Voilà.
Oui.
Voilà. Et à tous les juristes, à tous ceux qui passent leurs examens, d'ailleurs,
en
général.
Tous ceux qui passent leurs examens de droit, on vous aime.
Ouais, pas que les examens de droit, tous les examens.
Si
on vous aime,
on vous aime, on vous aime bien si vous écoutez claque, hein, je veux dire.
Et c'est, en fait, c'est qu'il y avait, alors je sais plus le terme exact, mais ouais, il y avait un truc dans la farine de blé, en fait, il y avait une espèce de champignon. Ça a pourri, en fait, quand le blé est pourri, il y a une espèce de truc dedans, et ça, la farine était de mauvaise qualité. Bah, du coup, le boulanger a fait du pain avec une mauvaise farine et il y avait cette espèce de champignon, cette espèce de truc dedans qui a rendu le village complètement dingue et les gens étaient fous, quoi. Et il y a eu plein de rumeurs. Alors, on pense que c'est ça. On pense que ça vient de la farine qui déconne, mais en fait, il y a tellement de rumeurs parce qu'en fait on n'a jamais trouvé vraiment la vérité sur cette histoire. Il y a même des gens qui, il y a même des mecs qui disent qu'en fait il y a la CIA qui testait à l'époque, qui faisait des essais, qui avait aspergé avec un avion, qui avait aspergé du LSD sur les champs de blé pour voir les effets dans le coin. Bon,
La farine, ça reste l'explication la plus rationnelle, quand même.
Voilà, bref. Ouais, mais du coup, ça aurait contaminé la farine qui aurait contaminé le pain.
Il y a ça, tu n'as pas vu le film, il te dit qu'il ne faut pas aller vers la version rationnelle.
Ah, mais oui, mais...
Ça m'a fait penser à l'affaire du pain fou de Pont-Saint-Esprit. Voilà, et puis après, il y a plein d'histoires comme ça. Mais alors, moi, ce que je voudrais, un point sur lequel je voudrais aller, quand même, parce que là, on a parlé de l'interprétation, l'ésotérisme, le style. Techniquement aussi, c'est quand même nickel. On a un montage qui se régale. C'est quand même le film le plus long de la soirée et c'est celui qui semble passer le plus vite. C'est quand même, c'est très efficace, on s'ennuie pas un moment. D'ailleurs, on se demande si le Naong Jin, il a pas peur qu'on s'ennuie, justement. Tellement il se passe de choses, tellement c'est monté. Alors, c'est pas précipité. C'est monté très vite, c'est très efficace, mais c'est très lisible. Et ça se tient beaucoup, contrairement à je sais pas, je vais penser au Drug King de la semaine dernière, par exemple, qui était monté avec les pieds très vite, mais pas bien. Ce genre de choses.
Alors, sache que pourtant, malgré tout, pour ceux qui peuvent être habitués, justement, à Naong Jin, c'est son plus lent.
Écoute,
c'est par rapport à ce qu'il fait d'habitude où c'est des montages ultra épileptiques où t'as l'impression que son monteur il a pas pris de rail mais qu'il est en train de baigner dedans. Là, c'est il prend son temps, il pose son cadre quoi. Je veux dire, c'est beaucoup plus posé. Pas ce qui est pas dérangeant dans l'autre parce que ça suit le propos, hein, mais c'est vrai que il s'est quand même beaucoup calmé et malgré tout tu t'ennuies pas et c'est énergique quoi.
Non mais c'est ça, on sent qu'il y a une énergie. Oui, c'est pas cuté, c'est pas des micro plans. On n'est pas chez l'ami Guy Ritchie, voilà. la ref des micro-plans. Non, voilà, mais ça reste, c'est ça, c'est sur 2h30, ça te lâche pas. Alors bon, il faut s'accrocher parce qu'il se passe beaucoup de choses en même temps. Il y a des scènes en plus, il aime bien quand il y a deux scènes en même temps, à des endroits séparés, les montages alternés, ça il aime bien aussi dans le style. Donc ouais, c'est un film très efficace qui perd un peu. Voilà, j'ai pas tout compris. Donc je prétendrai pas avoir tout compris. Et je trouve que la fin, voilà, est un peu en autre boudin. Donc moi, je pense que ça fait partie du truc. Ouais. Mais bon, je reste un peu sur ma fin à la fin. Voilà.
Bah, tu parlais de Pino Simple Flic tout à l'heure. Rassurez-moi, vous vous êtes tous marrés comme des coins au passage où ce pauvre gars, où il se fait tellement bolosser que quand il est assis devant la rue balise, là, le Yellow Scotch of the Police, devant la baraque où il y a eu les meurtres, il y a quand même une nana qui se rapproche de lui en lui balançant des pierres et le seul truc qu'il fait, c'est ça suffit, hein. Je vais t'arrêter. Et après, elle arrive, elle le regarde, elle passe sous la barrière et là, mais arrête, mais qu'est-ce que tu fais?
C'est génial. T'as génial, t'as envie de l'entendre, mais arrête-toi, je vais appeler la police. Ah merde, je suis la police.
Non mais c'est ça, et c'est presque. Mais par contre, ce côté comique du flic se disparaît au moment du film. Alors en même temps, vu ce qui se passe, bon, on va dire que c'est l'évolution du personnage, et tant mieux. Mais c'est vrai que.
Quand même, hein.
Mais non, mais justement. Ouais, mais justement, c'est pas abrupt, c'est progressif, tu vois. C'est parce qu'il est, confronté à tous ces événements-là qui commencent justement à devenir réellement, à prendre l'ampleur du sérieux qu'il devrait avoir, en fait.
Mais voilà.
Bon, on était quatre, je pensais que ça irait plus vite, et en fait, non. Toujours aussi long.
En même temps, on est quatre, mais t'as vu la gueule des films, quoi.
Ouais, sur celui-là, il y a de quoi parler. Effectivement. Bon, de toute façon, c'est quand même une expérience positive pour tout le monde. Hein.
Ah, carrément.
Carrément.
Ouais.
Maintenant,
les scènes de chamanisme, attends, un tout petit truc, promis, c'est court. Les scènes de chamanisme sont juste folles, incroyables. Enfin, ouais. J'ai jamais vu ça. Ça prend son temps, mais c'est tellement en tension et tellement bien. Et moi, j'ai eu un petit coup de cœur pour le personnage du fantôme. J'en dirai pas plus parce que, voilà, pour spoiler, mais j'ai trouvé très bien.
On a déjà assez spoilé.
Voilà. On veut des exorcismes coréens.
Mais surtout qu'en plus, il apparaît comme d'un coup. Ils sont en train de dire, au fait, on va faire un exorcisme. Et là, cut, on voit le gars avec ses froufrous. Ouais. Là, 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 je suis au putain. ça te prend à revers, le truc. Hein, c'est...
En même temps, tu imagines, les mecs, est-ce que tu les vois chercher l'exorciste dans l'annuaire? Et oui, alors en fait, non.
Non, c'est juste la manière dont c'est amené, justement, c'est abrupt. Mais ça rajoute aussi un côté absurde. Et à la fois, tu te dis... Vu que t'as pas d'autre explication, oui, t'as aussi envie de croire ça, quoi.
Ouais, le film fait déjà 2h30, c'est bon, quoi. Qu'on perde pas de temps avec l'exorciste.
Non, c'était juste la manière dont c'était cuté, que j'étais ultra abrupte en mode, tiens, paf, un exorcisme.
Un movie film nous aurait montré la recherche de l'exorciste avant qu'il arrive.
C'est ça.
Tellement. Bien. Là, on arrive maintenant au film, à la raison d'être de cette émission, le film choisi par Yasa qui nous a proposé le thème.
Oui. 마음 정했어. 자기하고 헤어지기로.
이제 이 방만 정리하면 되나?
자기 참 나이스해. 바람나 와이프 짐 싸는 거 도와주고. 왜 나한테 화내지 않는 거지?
그게 마음이 정해진 이상.
그게 얼마나 이기적인 건지 모르지?
Quand Yasa a proposé le thème de la pluie, alors qu'on approche plutôt de la saison de la neige, on se doutait bien qu'il y avait quelque chose qui clochait, elle avait quelque chose derrière la tête. Le mystère s'épaissit encore un peu plus quand elle annonce son film, Come Rain, Come Shine, ou Saranganda, Saranganji, Aneunda, film coréen de 2011, d'1h45, de Lee Yoon-ki. Une fois qu'on a ces infos-là, on se dit, mais mince, mais pourquoi a-t-elle choisi ce film ? Sélectionné à la Berlinale de 2011, mais jamais sorti par chez nous. Ça, c'est quand même un film que même Allociné ne connaît pas. C'est pour vous dire à quel point c'est un film de niche. Hein. Et puis, on a regardé le casting. On a regardé le casting et là, on est tombé sur Yeon Bin dans le rôle de l'homme. Oui, parce qu'il n'a même pas de prénom dans le film. Et alors, quand on regarde Yeon Bin, c'est qui ? C'est un chanteur-acteur principalement connu pour des dramas. Et là, du coup, on comprend tout de suite. N'est-ce pas, Yasa ?
Oui, oui.
Voilà, donc des dramas comme My Name is Kim Sang-soon, Secret Garden, Hide Jekyll Me, Memories of the Alhambra sur Netflix. À ses côtés, Im Seo-jong qui joue la femme, que les amateurs de films coréens ont sûrement déjà vu dans Deux Sœurs de Kim Ji-woon.
Oui.
Ou bien dans I'm Cyborg de Park Chang-wook.
Oui.
Et également Un Petit Chaton. Voilà, qui passe par là.
C'est ma choupette.
Une histoire très simple. C'est alors qu'un homme conduit sa femme à l'aéroport en voiture, elle lui annonce qu'elle a rencontré un autre homme. Et donc, on va assister à la dernière journée de ce couple dans leur appartement, sous la pluie. Voilà.
Bien résumé.
Et c'est juste ça, en fait. Enfin, c'est juste ça, et c'est tellement et si peu à la fois. Et donc, il y a ça. Pourquoi avoir choisi ce film ?
Hyun Bin ? Non, je rigole.
Ben ouais, sans blague.
Non, mais justement, la première fois que je l'avais vu, c'était justement parce que je commençais à découvrir les dramas, etc. Et comme c'était un acteur que j'appréciais pas mal, je commençais à regarder un petit peu tout ce qu'il avait fait et j'étais tombée sur ce film. Moi qui ne suis pas vraiment amatrice de films contemplatifs, je dois avouer que ce premier visionnage m'avait quand même fascinée parce que j'étais fascinée par le calme de cette rupture. C'était quelque chose que j'avais jamais vu, que j'avais jamais rencontré. On a l'impression au début que les personnages sont assez froids l'un envers l'autre, mais en fait, au fur et à mesure, on commence à découvrir cette tendresse qui les lie, cette tendresse dans les interactions qu'ils ont l'un avec l'autre. Et ce qui aide énormément, c'est justement ce huis clos assez étendu quand même qui se déroule dans la maison où ils sont coincés par une grosse tempête à l'extérieur et durant cette dernière journée ensemble, ils vont interagir à intervalles plus ou moins réguliers. Comment dire ça ? On a l'impression que la caméra est une intrusion dans le monde extérieur, tu vois, et c'est une intrusion dans leur intimité la plus totale. Ils prennent plaisir à redécouvrir, à retomber sur certaines choses qui sont des réminiscences de ce qu'a été leur relation. Et en tant que spectateur, moi en tout cas en tant que spectatrice, j'ai eu du plaisir à le découvrir avec eux au fur et à mesure. Et puis il y a cette ambiance un petit vraiment mélancolique, mais vraiment dans le sens le plus pur, parce que c'est la fin. Donc il y a cette nostalgie, cette mélancolie de quelque chose qu'on va quitter, qu'on ne va plus avoir. C'est la peur de l'inconnu, de la nouveauté qui les attend. Et puis, il n'y a pas beaucoup de dialogue, c'est-à-dire que, voilà, la constance dans ce film, c'est la pluie qui ne s'arrête pas. C'est tout le temps, il y a beaucoup de bruits différents parce qu'on va passer d'un couloir à une pièce, on va être dans les escaliers, on va être dans la cuisine, on va être dans un, comment on dit, basement. Voilà, j'ai plus le mot en français.
La cave.
Dans un sous-sol. Voilà, on va être dans un sous-sol, voilà. Et ce qui fait qu'on va quand même avoir le bruit de la pluie, on va percevoir la pluie différemment à chaque fois, mais elle est toujours présente, c'est une constante durant tout le film. Et je trouve ça absolument On dit que la pluie c'est romantique, mais là je trouve que c'est plus romantique que ce qu'on peut avoir dans les films hollywoodiens. Voilà.
Paradoxal pour un film de séparation.
De séparation, absolument, mais absolument, c'est exactement ça. Mais voilà, c'est un film qui m'a tapé dans l'œil.
Tu parles de séparation, t'as jamais vu une séparation comme ça, c'est-à-dire qu'ils sont super zen. C'est hyper, hyper calme. C'est très, 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 très calme. Alors, je me tourne pas vers Thierry parce qu'il y a eu quelques soucis avec ta copie. Ben, c'est un film pas facile à trouver puisque justement, comme il n'est pas sorti chez nous, il n'est même pas en VOD ni que dalle. Donc, il faut.
Mais c'est-à-dire qu'à l'époque où je l'ai vu, je le trouvais un peu partout sur les sites de streaming, des trucs comme ça, etc. Il est sorti en 2011, hein, donc voilà, c'est.
Ouais.
Oui, non, mais c'est un petit peu l'explosion de la vague coréenne à l'époque au niveau culturel, donc que ce soit les séries, les films, la musique, etc. Donc c'était assez facile de trouver des versions sous-titrées faites par des fans, etc. Donc il n'y avait pas de souci de ce côté-là. Alors que là, maintenant, avec le recul, j'avoue que même moi, j'ai eu du mal à le trouver.
Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il
a été présenté à Berlin, je crois, sur la fiche.
Il n'a pas été présenté à Berlin. Il était en sélection officielle, il était en compète à Berlin.
Oui, c'est vrai.
Carrément. Alors, moi, je pense que c'était pour faire la sieste entre deux films, mais. Mais Léonore va me contredire.
Bah, oui, oui, absolument. Oui, alors, moi, j'étais assez étonnée. Alors, quand j'ai vu l'affiche, que j'ai regardé un petit peu le casting, enfin, j'ai regardé ce film, je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus académique et conventionnel, et j'étais vraiment agréablement surprise. Alors, déjà, premier truc, la première scène, c'est un plan séquence qui est assez long, je crois qu'il fait quasiment un quart d'heure.
Il fait 10 minutes.
Non, 9 minutes. 9 minutes.
9 minutes 30, un truc comme ça. Oui, il fait 10 minutes.
T'as beaucoup regardé ta montre.
Ben oui.
Il fait écho à un de mes films préférés de cette année. Donc déjà, j'étais un peu dans le... Ah, bah sympa. Donc je pense notamment à I'm Thinking of Ending Things. Et du coup, à raison, puisque les deux ont quand même quelques thématiques en commun. Outre cette première scène où tu vois le couple en train de discuter dans une voiture, il est en train de m'accompagner à l'aéroport parce qu'elle part un week-end en travail, enfin, elle part quelques jours pour le travail. Et rien que dans le côté anodin de la conversation et dans leur ton et dans leur regard ou non-regard, tu sens que déjà ça ne va pas, qu'il y a déjà la rupture qui se profile. Et je trouve ça du coup très fin et très bien amené. Ce qui amène du coup à toute la seconde partie du film, qui est toute l'intégralité du film, où tu les suis pendant à peu près une heure et demie dans cette maison, où elle se prépare pour rejoindre son amant et donc réellement quitter la maison pour se séparer. Et c'est terriblement bien fait, dans le sens où déjà rien que la maison est un espèce de labyrinthe où... Déjà, elle est bizarrement fichue, enfin, elle n'est pas classiquement faite. Il y a des étages, des sous-étages, des demi-étages assez étonnants, des couloirs un peu dans tous les sens. Et clairement, ça représente la psyché de ces deux personnages qui sont perdus, qui essayent d'ailleurs de se retrouver quelquefois dans des pièces ensemble, mais ça ne fonctionne jamais. On sent que les deux essayent d'éviter le conflit, et donc ils partent sur certaines choses, et à chaque fois qu'ils voient qu'il y a une espèce d'accroche et qu'il y aurait un possible conflit, il y en a un des deux qui part. C'est très beau. Et ce qui est encore plus beau, c'est l'utilisation de la pluie dans cette maison. Déjà, la pluie sert dans la narration, parce qu'elle les bloque tous les deux dans cette maison, dans leur maison. Mais plus que ça, elle montre les failles des personnages. Il y a par exemple, je pense à une scène où la femme essaye de fermer la porte, la fenêtre vitrée. Et elle a du mal parce qu'elle est un peu coincée et qu'elle est particulière. Et elle est obligée d'appeler son mari pour qu'il aille le fermer à sa place pour éviter que la pluie rentre dans la maison. Et il lui dit, mais de manière très calme, « Non, mais tu penses pas que normalement tu devrais déjà savoir faire ça depuis le temps que t'es là ?» Et du coup, c'est une toute petite phrase, mais c'est hyper...
C'est à ce moment-là que je suis tombée amoureuse du film.
Ah oui, bah, oui, oui, c'est, ouais. C'est tellement... Du coup, tu comprends là où ils veulent aller et là où ils veulent venir, et c'est tellement joli et tout en subtilité. Ou alors, parce qu'il y a aussi le travail sur les objets. Du coup, la caméra s'arrête beaucoup sur des objets du quotidien. Les marques de la relation qu'ils ont eu avant. Donc à la fois des moments de joie, mais aussi peut-être des moments un peu... et c'est, du coup c'est un petit peu la manière de faire le bilan sur leur relation et oui c'est du coup très très joli. Et l'une des autres scènes qui est vraiment très très belle, c'est une qui conclut pratiquement le film. Et du coup ils se retrouvent obligés à rester manger à la maison et du coup une nuit supplémentaire, manger le dîner ensemble. Et ils se retrouvent à cuisiner un plat de pâtes tous les deux. Et c'est pas un qui cuisine pour l'autre, ils le font réellement ensemble. Et tu te rends compte que du coup, ils l'ont vraiment fait très souvent et qu'il y a une espèce de complicité qui est toujours là et qui sera toujours là malgré la rupture. Et c'est vraiment très joli. Le seul petit défaut que j'aurais à dire à ce film, c'est qu'ils sont obligés un petit peu d'inventer une histoire devant la fille à un amant pour s'en aller, alors que finalement, ça fait longtemps et qu'ils se sont lassés loin. Très, très
alors,
joli
je
film.
Ne sais pas si l'amant est dans la nouvelle d'Areno Inoue, d'après laquelle est inspiré le film.
Aucune idée.
Aucune idée.
Bon, écoutez, moi, je... Oui, alors c'est très beau. C'est très subtil, tout ce que vous voulez. Ça parle pas beaucoup, en effet. Mais punaise, c'est chiant,
c'est pas très
hein, voilà, disons-le tout de suite.
C'est pas très Thomas compatible niveau rythme, on va dire.
Je m'en doutais un peu.
Alors, c'est pour décrire le film, j'ai pensé à du Hong Sang-soo, mais sans trépied.
Oh non, Thomas. En plus, tu sais que j'arrive pas à supporter Hong Sang-soo. Non, pas à ce point. C'est pas à ce point.
Alors la différence, c'est que les dialogues ont l'air moins improvisés que chez Hong Sang-soo.
Oui.
Mais après, il y a une. On est moins fixe. On a une caméra qui se balade. Il y a pas de trépied. Donc ça. Bon, j'aime pas ça, mais bon, que voulez-vous. Faisons avec. Donc ouais, non. La maison est un personnage aussi du film. Ça, je sais pas si on filme les objets, mais on filme aussi la maison. La caméra se balade dans la maison. On filme. On a les regards sur les portes, sur les endroits. On regarde où est l'autre. La maison est là. On a ces deux personnages qui sont là sans être là. Et du coup, moi, j'ai regardé le film en étant là sans être là non plus. C'est l'impression que ça m'a donné, c'est très très lent, c'est presque, ouais, c'est chiant, je reviens, parce que, en plus, il y a ça, tu nous as dit, je sais plus si tu l'as dit pendant l'enregistrement ou off, parce que c'était au début, pour nous dire que le réel aimait bien faire des films chiants.
C'était un off, oui.
C'était un off.
Ouais, il se définit comme ça, il des films barbants, il aime bien, voilà, il prend son temps, quoi. Et d'ordinaire, je ne suis pas cliente de ce genre de film, hein, vraiment. C'est juste que là, ça a cliqué, quoi. J'ai trouvé ça très poétique, en fait.
C'est ça. Ben moi, ça m'a pas saisi. Donc, en fait, il se passe beaucoup de choses sans qu'il se passe rien, en fait. Mais enfin, vraiment. C'est-à-dire qu'en une demi-heure, on avait fait un café et emballé une sous-tasse. Pour un déménagement, c'est pas super productif. Non, si, on avait mis... Et la fille qui... Alors, j'ai pas compris qui devait quitter la maison. Je crois que c'est la fille, mais je suis pas sûr.
C'est elle, oui.
C'est elle.
Oui,
et donc, elle, en une demi-heure, tout ce qu'elle a fait, c'est mettre des marque-pages dans un livre de recettes de pâtes. Donc, c'est...
elle
part pas aujourd'hui,
quoi. Elle se souvient. Elle se fait... Mais en soi, c'est pas grave si elle prend pas toutes les affaires. C'est pas tellement le propos.
C'est pas le propos. Mais pour vous dire un peu l'ambiance dans laquelle on est. Et en fait, il y avait un truc, j'ai l'impression que le film faisait exprès. C'est que dès que, ça parle pas, il se passe, bon, voilà, on regarde, on filme un truc, on filme le couloir, on filme la tasse, le mec en train de faire le café pendant trois plombes. Voilà. Voilà. Donc en gros, dès que je regardais ailleurs, dès que je prenais mon téléphone, dès que je regardais sur l'écran d'à côté, dès que je sais pas, je regardais, il se mettait à parler. Et alors donc du coup, je ratais la. J'ai dû rater je sais pas combien de répliques parce que j'arrivais pas à me concentrer sur le film. Donc
Jacques Rivette.
Ouais, pas loin, sans les dialogues absurdes.
C'est-à-dire, c'est le seul truc que j'aurais réussi à caler pendant ce film.
Mais d'autant plus que les dialogues sont quand même assez simples, c'est pas du grand lyrisme, mais c'est à chaque fois, il y a au moins une phrase qui est métaphorique et qui renvoie à la situation qu'ils sont en train de vivre. C'est juste, c'est excellent. À chaque fois, ça va être soit l'homme, soit la femme qui va balancer cette phrase. Mais ça renvoie toujours à la situation dans laquelle ils sont. Ce qui aide un petit peu, parce que c'est vrai que quand on regarde Im Soo-jong, qui a quand même une poker face monumentale, c'est génial, et Hyun Bin, qui a quand même le visage caché par les cheveux les trois quarts du temps, c'est pas, oui, voilà, je veux dire, c'est pas simple de détecter leurs expressions faciales, quoi.
Ah, mais
et c'est totalement compensé, en fait, par la gestuelle et le positionnement dans l'espace et l'interaction avec leur environnement.
Voilà, on a deux acteurs inexpressifs dans un film où il se passe pas grand-chose, donc autant te dire que moi, le plan de séquence de 10 minutes en caméra fixe, hein, parce que la caméra est posée sur le capot,
oui.
Elle est fixe, et voilà, hein, c'est ça le plan quand même. Ils sont sur l'autoroute, oh là là, est-ce que ton milkshake il est trop doux, voilà, oh là là, punaise.
C'est du café, ils ne boivent que du café. D'ailleurs, oui. T'aurais eu besoin de boire du café.
Ah, mais d'ailleurs, j'ai eu le temps de me faire un café et revenir, et il faisait toujours son café d'ailleurs.
Comme quoi.
Donc ouais, c'est, voilà. Alors, je vois, oui, effectivement, la subtilité, l'image, notamment l'image du chaton, ok, très bien, mais enfin, c'est quand même terrible la comparaison en plus. Heureusement que j'ai vu The Strangers après, parce que quand même il y a plus d'action en 5 minutes de The Strangers qu'en 1h40 de ce film, quoi. Enfin, il y a plus de
Ah, c'est sûr que c'est pas le même style. Hein.
Ah non, c'est absolument pas le même style. Oui. Pas du
tout. Moi, je trouve ça très rythmé. Hein.
Merci Titi.
Bah non, mais c'est vrai. Moi, je l'ai mis. On n'a pas eu les dialogues. On a regardé Happy Birthday. J'ai trouvé ça très rythmé.
Oui, parce que voilà. En plus, c'est ça. C'est que comme le film est assez difficile à trouver, tu t'imagines un film de 2011 qui est pas sorti. Donc pour trouver une copie, c'est vrai. Donc Thierry, t'as pas pu le voir parce que t'as eu un problème sur ta copie, c'est ça.
En plus, l'anecdote voilà autour de ça est quand même super drôle parce que voilà, c'est ce que je vous racontais tout à l'heure en off, parce que nous on lance le film Pépère en mode on va quand même regarder ça, parce que en plus c'est le premier film qu'on a lancé de la sélection puisque c'était le seul qui me disait vraiment rien, donc je me suis dit bah tiens, je vais commencer par celui qui juste enfin dont je n'ai pas entendu parler. Et donc du coup voilà, on a ce plan très très long sur la voiture, ils sont dedans, il pleut, il y a tous ces véhicules. Et ils se mettent à parler, et je vois... Enfin, Yassa nous avait dit qu'elle pouvait nous envoyer des sous-titres français, mais du coup, c'était des sous-titres anglais, donc il n'y avait aucun souci. Je commence à lire, je fais « Ok, c'est intéressant, c'est un couple qui parle, voyons voir où ça va nous mener. » Et puis, je les vois qui bougent les lèvres, j'en entends pas les dialogues. Mais ce qui était bizarre, c'est que bah, forcément, la caméra était à l'extérieur de la voiture. Je me suis dit « C'est peut-être volontaire, en fait. Peut-être qu'on voit ce qu'ils sont en train de dire, mais qu'on ne l'entend pas. Peut-être que dans la version coréenne, ils ont mis des sous-titres aussi, quoi. Donc bon. » Parce que le souci, c'est que je sais pas ce qui s'est passé en termes de piste sonore, mais j'entendais tous les bruits extérieurs. Donc on entendait le bruit du moteur de la voiture, on entendait les voitures qui passaient, on entendait les bruits d'oiseaux, non, les bruits de pluie.
Ça c'est ton appart qui est très mal insonorisé, Thierry.
j'ai eu un doute, j'ai vraiment eu un doute en plus, tu rigoles, mais j'ai vraiment eu un doute et j'ai mis en pause et non. Et donc du coup, j'attends ouais 3-4 minutes, je me dis c'est quand même bizarre, donc j'envoie un message à Yassa en lui disant mais c'est normal qu'on n'entende pas les dialogues dans le film, est-ce que c'est volontaire vu que j'entends tous les autres sons en fait. Et Yassa ne capte pas où j'en suis, elle me dit juste t'inquiète pas, ça va venir, il va y avoir du dialogue. Et je lui dis ah bon, bah c'est peut-être le début du film qui veut ça, et après tu sais, on va entendre ce qu'ils disent quand ils sortent de la voiture quoi. Donc j'attends encore 2-3 minutes, mais j'ai quand même un doute, hein, donc je renvoie un message à Yassa en lui disant bon quand même, c'est expérimental ton truc. Voilà. Et elle me dit ah ben non, mais t'es censé entendre, c'est pas normal. Donc on relance le film 3-4 fois, impossible, je débranche, je l'avais mis en HDMI sur ma télé, je débranche, j'écoute pied à l'ordi, ça marche pas, je change les sorties son, ça marche pas, je regarde s'il y a d'autres pistes, ça marche pas, du coup j'ai pas pu le regarder. Et voilà, et du coup, c'est ce que je disais, on a maté Happy Birthday et c'était très rythmé. Voilà, la soirée n'était pas gâchée.
Ouais, et moi, l'anecdote, c'est que pendant que je regardais le film, que bon, je luttais contre le sommeil et l'ennui, à un moment, il y a une petite musique classique dans le fond. Je me suis dit, ah tiens, oui. ils ont décidé de meubler. Très bien. Et en fait, non, c'était ma copine qui bosse justement dans la musique qui avait mis de la musique classique en fond pour son boulot et que j'entendais tellement il n'y a pas de... Ben en fait, il n'y a pas de bande-son. Enfin, il y a des bruitages, mais il n'y a pas de musique à proprement parler, à part le générique à la fin.
Oui, c'est pas soutenu par la musique. Hein. C'est uniquement les bruits. Il y a le bruit de la radio, le bruit de la télé à un moment donné. Voilà, les objets qu'on déplace, les mouvements. Mais oui, il n'y a pas de musique.
Là, non, c'est très zen, c'est très zen. Moi, il y a un truc qui m'avait fait marrer tellement c'était zen, c'est que bah, il va pour faire la cuisine, mais on le voit cuisiner, mais genre il coupe 3 tranches de concombre, mais 3.
Oui.
Pour faire des cocktails.
Ça, j'ai pas compris. Bah. C'est une recette de pâtes très spéciale, j'ai l'impression.
Non, mais c'est ça. Voilà. Mais c'était. Alors moi, les pâtes, on le sait bien plus tard. Et encore, je sais même pas si on voit les pâtes. Je ne sais même plus. Voilà.
Si mais si on les voit.
T'avais regardé ton téléphone à ce moment-là.
Ouais, mais tu le vois, donc il est là sur sa poêle avec ses grandes baguettes pour secouer, tout ça, voilà. Et donc il y a 3 gnocchis et 2 tranches de concombre qui se battent en duel dans sa poêle. Et il est super zen.
Il met des spaghettis après, oh là là. Et puis il y a 3 tomates dedans.
Voilà. Et ouais, il y a 2 trucs dans sa poêle. Mais même, on dit à un moment, ils font ensemble la cuisine avec comme une routine, mais là je reviens, on rebondit sur le film, ils sont séparés même dans la scène de cuisine, parce que la cuisine est grande, et ils se tournent le dos dans la cuisine, même quand ils cuisinent ensemble. Et on sent
Non, il y a un moment justement pas du tout, il est en train de... Elle rajoute de l'eau dans les pâtes, ils sont côte à côte, et ils ont des gestes qui sont très coordonnés, alors que normalement c'est ouais. Une personne qui ferait ces gestes-là, et là ils les font à 2 ensemble, et sans se... bousculer sans qu'il y ait de problème.
On sent l'habitude, oui. Au contraire, ouais. Justement, c'est très fluide comme gestuel.
Ouais.
Tu devais regarder ton téléphone à ce moment-là.
Ah, mais peut-être, peut-être. Parce que moi, quand je les ai vus cuisiner, ils étaient dos l'un à l'autre. Elle aussi, elle secouait une poêle avec deux trucs dedans. Et voilà.
Ça aurait pu expliquer,
elle,
cela
elle
dit,
avait récupéré la poêle pendant que lui s'occupait de couper les oignons.
Ouais,
de
oui.
l'autre côté.
C'est con parce que tu vois, ils auraient pu limiter en plus, enfin, expliquer, tu vois, si on n'avait pas mis un amant, on aurait pu expliquer ça comme ça. Tu as la femme qui en avait marre que tous les jours, il lui prépare deux gnocchis et trois concombres.
Ah, c'est très zen.
C'est pas des gnocchis en plus, c'est de l'ail.
Je te non, quitte, pourquoi ta cuisine, c'est de la merde.
Mais en plus, c'est des spaghettis, dit n'importe quoi.
Mais en plus, elle lui dit à un moment donné, elle lui dit pourquoi tu t'énerves pas plus. Enfin, je te dis que je te quitte et tu le prends très bien. Et
il se passerait
ça l'énerve.
Trop de trucs dans le film si le réalisateur n'aimerait pas.
Non mais voilà, et il lui répond, il lui dit que il sait que quand elle a pris une décision, elle ne change plus d'avis et il se sent aussi en partie responsable de. Que leur couple périclite aussi. Donc, ça vient justifier un petit peu cet état hyper zen dans lequel ils sont.
Bien. De la contemplation d'intérieur, donc. Come Rain, Come Shine, pour les explorateurs d'Internet. Voilà, si vous le retrouvez. Film de 2011, voilà. Come Rain, Come Shine de 2011. Ne confondez pas avec les chansons, les trucs comme ça. Après la pluie, le beau temps, c'est l'heure des recos.
Oh.
Un chat.
Les recos. Le ouais, chat.
Les
recos.
Oui.
C'est d'ailleurs.
Mais c'est l'heure des. C'est donc ouais. L'heure des recos, les fameuses, les belles recos. C'était le thème de Yassa, donc on va commencer par Yassa. Voilà.
Ah ben moi, c'est vrai qu'à part les films de cette semaine, j'ai pas fait grand chose à part regarder The Office. Donc je sais pas si ça peut compter comme recos.
Mais
ou
tu
pas.
As regardé The Office et ça, tu vois, c'est beau.
Ah oui, tu peux recommander The Office, hein, on ne s'en lasse
bah,
pas.
Bon bah voilà, je recommande The Office. Voilà, c'est
tout.
C'est des gens starbés, ils sont complètement à l'ouest, mais j'ai appris à les aimer malgré moi. et je me marre tout le temps, donc voilà. C'est justement après avoir vu plein de films avec la pluie, ça fait du bien de voir des gens qui pètent un câble et qui mettent un peu du baume au cœur.
Et c'est la première fois que tu regardes ou tu c'est un
ouais.
un
ah
un
ouais c'est je connaissais de réputation certaines répliques mais j'avais pas le contexte etc et du coup là c'est vraiment la première fois que je regarde
c'est
toutes les saisons
c'est allé à une vitesse hallucinante quand on lui a dit hey Yassa tu regardes et genre le lendemain elle nous a fait oh je commence la troisième saison de fait oh putain
et bah, ouais, quand j'aime je binge
non mais je pensais pas que t'allais autant accrocher
là ben il me reste je suis au deuxième épisode de la 9e saison de la dernière saison donc voilà.
Ah oui à la vache oui ah oui t'as presque fini
oui, oh, oui.
Elle fait pas une overdose après tu vas être déprimé une fois que t'auras fini tu vas être en bête
ouais. Ah oui non mais ça m'arrive
je
souvent,
confirme
c'est pas un problème voilà c'était Marco
et je crois qu'il pleut dans certains épisodes
oui je crois aussi en plus
Éléonore ensuite.
Oui, alors moi, du coup, j'essaie de rester dans le thème, parce que je crois que c'est la première semaine où je reste dans le thème pour ma recommandation.
Oui, oui.
Allez, je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire? Bon, est-ce que je reste dans le classique? Je vais dire Breakfast at Tiffany's, qui est un de mes films préférés, mais je trouvais ça un peu classique. Et du coup, je voulais me servir d'un film qui se sert de la pluie dans sa mise en scène de manière assez intelligente et qui reste dans le type de film que j'aime beaucoup, à savoir l'horreur. Et donc, je vais choisir The Gendo Identity.
Ah,
donc,
trop bien.
Ouais, il est super et je trouve que bon, la pluie, c'est pas essentiel dans ce film, mais c'est quand même assez malin. Mais je dirais pas forcément pourquoi, parce que sinon je spoil et du coup c'est pas drôle. Mm-hmm. Mais c'est donc un film de 2016 d'André Ovredal.
Tu peux nous la refaire?
Ovredal, je sais pas comment on dit le Obaré. Je suis désolée.
Je crois que c'est Ovredal. C'est Ovredal, ouais.
André Ovredal, dont on doit aussi Scary Stories, Total in the Dark
oui.
et Trollhunter, qui sont les deux fort oui. sympathiques. Et The Gendo Identity a une mise en scène sacrément intelligente. Donc on suit un père et son fils qui sont médecins légistes et qui reçoivent en fin de journée un corps de jeune femme qu'ils doivent autopsier. Et sauf que ce corps de jeune femme est décidément très étrange. Il retrouve des espèces de sévices qui ne devraient pas avoir lieu actuellement et plein de choses très étonnantes. Notamment, elle a C'est comme si elle avait porté un corset durant sa vie, enfin, plein de petites choses comme ça. Et donc, c'est très intelligent parce que tous les petits éléments fantastiques et horrifiques sont amenés par ces découvertes tout le long de l'autopsie. Et c'est du coup très insidieux et très malin. Et en fait, la pluie, déjà d'un point de vue narratif très classique, c'est juste qu'il les bloque. Ils ne peuvent plus sortir à cause d'une tempête qui fait rage et qui les oblige à rester avec ce corps très particulier. Je n'en dirai pas.
Tu m'as donné envie.
Non, en vrai, il est vraiment.
Tu peux kiffer. Là,
et tiens, je vais juste un petit truc pour les copines. Demoiselle d'horreur, donc Judith a fait une analyse sur ce film qui est très bien faite, comme toujours, et très
elle
intéressante.
Elle est super, donc, son analyse.
Voilà, exactement. Allez, jeter un petit coup d'œil. Voilà.
Merci, Thierry.
Et j'en profiterai pour dire que de toute façon, même si tu as cité le casting, voir Emile Hirsch et Brian Cox, oui. C'est toujours un plaisir. Qui sont des gens plutôt rares à l'écran actuellement, et on les aime. Voilà. Bref, oui. Alors moi, attention. Tu as poussé un petit cri d'extase pour Éléonore. Tu vas pousser aussi pour moi. J'ai une reco dans le thème.
Oh, c'est alors. Tout arrive.
Et c'est une reco. Ben vous savez quoi? En fait, pendant que vous étiez en train de parler de Come Rain, Come Shine, j'avais pensé à un truc avant, mais je disais non, c'est pas très sérieux. Et puis, du coup, j'ai regardé donc toute ma collection là de DVD. J'étais, est-ce qu'il y a des films où il pleut qui pourraient me parler? Il y en a quand même quelques-uns. J'ai pensé à des scènes particulièrement, mais pas des films où il pleut tout le temps. Et je voulais vraiment un truc où il pleut tout le temps. Et du coup, j'ai repensé que Yassa, un jour, elle nous avait quand même conseillé le concert de Lynyrd Skynyrd de Hellfest.
Oh.
Et je me suis dit, putain, mais oui, il y a une vidéo que j'ai matée en boucle quand je l'ai vue. C'est un concert de Metallica à Manchester en 2019. Alors, j'ai pas vu tout le concert, j'ai juste regardé. Je voulais voir comment ces papis de Metallica jouaient Master of Puppets à l'heure actuelle. Et parce que j'écoutais pas trop de versions live depuis longtemps, je me suis dit, tiens, ça donne quoi l'année dernière? Et je suis tombé
L'intro
sur ce concert.
Tellement longue qu'Éléonore s'est barré.
Non, c'est vrai. Merde. Bref, il y a ce concert à Manchester en 2019 où ils sont totalement sous la flotte. C'est génial parce que la caméra est constamment embuée et en fait, chaque fois qu'il y a des plans sur les membres, on sent que les mecs, ils en chient comme pas possible. Mais qu'ils prennent un pied et j'avais l'impression de revoir le Metallica de 20 ans avant qui a pas toute la fatigue aussi sur son... Enfin, même s'ils sont hyper énergiques sur scène et voir des plans de Lars Ulrich qui, à chaque fois qu'il tape sur sa caisse claire, il a de la pluie qui lui remonte dans la gueule et le mec est heureux comme pas possible. C'est super prenant. Donc je vais t'envoyer ça déjà, il y a ça, mais on vous mettra le lien de la vidéo en description.
Ah, donc un concert sous la pluie, ça va être
un concert
tellement...
sous la flotte, ouais.
Ça va être pas mal pour Twitter, ça, pour le faire deviner. T'as fait exprès.
Ben non, du coup, là pour l'instant, on fera juste deviner Jane Doe Identity. Je vais quand même pas faire deviner The Office aussi. je compte sur toi, Thomas, pour nous proposer un truc qu'on pourra faire deviner.
Alors. Moi, c'est un lien avec la pluie. J'ai cherché un lien avec la pluie. Alors, j'ai rien dans ma pile de DVD et de toute façon, j'avais rien le temps de voir cette semaine parce qu'avec les films de 2h, 2h30, plus la préparation de, en fait, demain, voilà, on vous donne les off. Demain, on enregistre l'épisode top de l'année qui passera juste après Noël, le samedi après Noël. Donc,
après les
en fait.
De Noël, le top.
C'est ça. C'est les fêtes, quoi. Ça va être vraiment la fête cette fin d'année. Et donc du coup, j'ai pas pu voir de film dans ma pile de DVD, mais quand même j'ai une relation, un lien avec la pluie. En fait, déjà il y a le mot pluie dans le titre, ça marche, ça passe, hey. Ça passe. Donc Marocco, c'est une série d'animation japonaise, Wolf Rain, série de 2003-2004,
oui.
Tensai Okumura. Alors Tensai Okumura, il a été surtout animateur clé à de nombreuses reprises. Mais alors à côté de lui, au scénario, on a Keibo Nobumoto. C'est produit par Masahiko Minami. Le caractère design, le dessin des personnages, c'est Toshihiro Kawamoto. La musique, c'est une certaine Yoko Kanno, qui est un peu connue si on aime l'animation japonaise. Et tous ces gens-là, ils ont bossé sur quoi avant? Ils ont bossé sur Cowboy Bebop.
Mais c'était sûr, ça, c'était sûr.
Ouais, donc c'est une équipe d'enfer qui fait quelque chose de dans le fantastique. On est toujours dans le futurisme, mais dans le fantastique. Wolf Rain, de quoi ça parle? On est dans un futur post-apo. Les loups sont censés avoir disparu depuis 200 ans, mais en réalité, non. Ils vivent parmi nous, ils sont parmi les hommes, et ils peuvent prendre forme humaine pour se camoufler. C'est ça, il se camoufle. Et en fait, on va suivre un petit groupe de loups, une petite meute, qui va accompagner une fille fleur. C'est très magique, c'est très fantastique.
J'ai les larmes aux yeux.
Et ils vont partir en quête. Par les recos.
Et ils vont partir en quête du paradis. Voilà.
Ah.
C'est beau, wow. Ça pleurait, c'est magnifique. Ouais, le générique est à pleurer, voilà. Oh. Alors, je l'ai pas revu récemment, mais bon, c'est un truc qui m'a marqué. Je l'ai vu, je l'ai revu, voilà. Et du coup, j'ai envie de le revoir, voilà, ouais. Avec ce thème de la pluie. Donc, il fallait que j'en parle, évidemment.
Oh, merci Thomas de m'avoir fait appeler ça.
Par contre, j'ai cherché, c'est pas super dispo, je crois. Ça n'a pas l'aura de Cowboy Bebop, c'est dommage.
Oh, les animés, ça se trouve, t'inquiète.
Oui, ça se trouve. Je ne m'en fais pas. Bien, bah, c'était les recos et c'était l'émission le claque au chaud sur la pluie. La semaine prochaine, on a spoilé le thème, ça sera bah, le top de l'année 2020. Quels films nous ont marqués durant cette année mouvementée? Alors, on l'enregistre un peu à l'avance parce que bah, les salles sont fermées, voilà, donc on se permet. Il n'y aura pas de surprise de dernière minute. Visiblement.
À moins que Netflix nous propose un super film de Noël.
Oui, ce sera pas donc ce sera sûrement. Là déjà surprise, ce sera sûrement pas sur Netflix.
Là déjà ce soir, personne n'a conseillé Manque, donc.
Il est sera-t-il dans le top? Mal Manque, mais bon, ça peut décevant quand même. Hein.
Sera-t-il dans le top? Je suis pas sûr.
Mais connecté, il sera. Vous inquiétez pas.
C'est bon de rire parfois. Bien. je ne refais pas la promo pour la boutique, hein, puisqu'on l'a fait au début, le lien en description, tout ça, tout ça.
Achète.
Le calendrier de l'Avent continue. Voilà. Et il va se terminer ben, un peu avant, puisque le 24 tombe le jeudi et Noël tombe le vendredi. Et donc l'épisode tombera le samedi. Donc après la gueule de bois, après avoir bien mangé, vous vous reposez ce week-end avec un petit épisode de Certains Lames à Chaud. Ça va être super. On vous embrasse, je vous remercie, chère équipe, merci Yassa.
Merci.
On n'a plus l'habitude, là on est quatre, je me permets de faire un par un. Voilà. Merci Léonore.
Merci à toi.
Et merci Thierry.
Merci.
Et merci chers auditeurs de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Vous pouvez nous suivre évidemment toute la semaine encore avec le calendrier de l'Avent, mais également sur les réseaux sociaux. Sur Twitter, Facebook, Instagram, @clahacpodcast, C-L-A-A-C podcast. Partagez l'émission si vous avez aimé ou même commentez. Dites-nous ce que vous avez pensé de l'épisode. Vous pouvez également sur votre application de podcast commenter l'épisode et mettre 5 étoiles. Ça aide à faire découvrir l'émission. Et même pendant les repas de fête et pendant les réveillons, vous pouvez parler de l'émission. D'ailleurs, vous pouvez dire que vous écoutez du podcast, c'est toujours bien, et dire que vous aimez en plus certains Lames à Chaud que vous l'écoutez. Ça fait un sujet de conversation et c'est moins clivant que la politique. Donc ça reste comme ça,
pas
ça se passera bien.
Pas sûr.
Parler de l'émission, pas des
Vous avez le droit
films.
De devenir violent envers les gens qui vous disent qu'ils n'écoutent pas certains Lames à Chaud, mais qui préfèrent, pardon, le cinéma. Et comme ça, ça pourra devenir aussi violent qu'un débat politique.
Ah, si votre beau-frère raciste aime les autres émissions, nous ne jugeons pas.
J'allais sortir si ton beau-frère raciste aime, pardon, le cinéma, je fais, j'allais pas aller jusque-là.
Non, j'ai dit les autres émissions, j'ai pas dit lesquelles.
Oui, non, c'est pour ça que j'ai cru que t'allais citer ça là, je me dis
non. Non, je me permettrai pas. Donc, on vous dit à demain en petit comité avec un invité pour le calendrier d'avant, ou à samedi prochain pour l'émission, le top de l'année, la dernière émission de l'année, parce que nous aussi quand même on va avoir une trêve de Noël, voilà, avant l'année. Je pense que 2020 a eu assez d'émotions comme ça. À très très bientôt, ou même à tout de suite si vous écoutez les épisodes à la suite. Bisous, bisous, bisous.
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 Et joyeuses fêtes.
Remets le chat.
Oui. Ah,
oh. Bisous Marwan.
Bon week-end.
Non, il veut pas. Bisous Ellie.
Salut.
Bisous Hera. Non, c'est bon,
stop. Branlette. Grosse branlette.
C'est tout ce que claque, c'est aussi ça.
Voilà, je m'en lâche pas.